France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse, tous les vendredis à 10h. Et ce matin, le plaisir de regarder les films d'Alfred Hitchcock, sans doute avec Chaplin, le cinéaste le plus célèbre au monde. 57 films en 60 années de carrière, L'amour aux trousses, Les oiseaux, Psychose, Rebecca, La main au collet, Fenêtre sur cour, Les 39 marches, Vertigo, L'inconnu du Nord Express. Alors quelles sont les grandes thématiques qui irriguent son cinéma? Pourquoi éprouve-t-on du plaisir à se faire peur en regardant les oiseaux, au point d'éprouver pour certains une véritable phobie des oiseaux dans la vraie vie, bel exemple de la vie qui imite l'art. Nous verrons quelle est sa mécanique du suspense, comment le virus du mal infecte des innocents et pourquoi des innocents se sentent coupables, pourquoi le cinéma d'Hitchcock pourrait se résumer à cette fameuse phrase de la philosophe Simone Veil « Tous nos monstres sont en nous ». Alors pour évoquer ce plaisir de regarder les films d'Hitchcock, deux journalistes, Éric Libiot et Thierry Jousse, n'hésitez pas à nous dire pourquoi vous aimez le cinéma d'Hitchcock sur l'appli Radio France. Je les imagine bien dans un rime mec de la corde, Thibaut de Saint-Maurice et Guimette Audicino. Bonjour Thibaut, chercheur en philosophie. Quel est le menu de votre punchline philo, ces phrases qui ont marqué l'histoire de la pensée?
Eh bien, ce matin, on met le maillot de bain et on va du côté d'Éphèse, en Grèce, il y a 2500 ans, avec Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.
Bonjour Guimette.
Bonjour Ali. Enfin, pardon, j'aurais aimé que vous disiez que j'étais Ingrid Bergman. Ça m'a hyper déçu, cette présentation.
Vous êtes chef de rubrique cinéma Télérama. Quelle est votre ordonnance de cinéthérapie cette semaine?
Eh bien, je vais vous parler de sexe et de sécu.
Ah, ça va bien ensemble, c'est pas un oxymore?
Eh bien, vous verrez.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebbi.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to a new season of Alfred Hitchcock Presents.
Extrait d'Alfred Hitchcock présente la fameuse série télévisée. Bonjour Thierry Jousse.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir. Éminent critique de cinéma, longtemps masqué la plume, réalisateur. Vous avez récemment dirigé le hors-série des Cahiers du cinéma consacré en avril dernier à Hitchcock. Et on vous retrouve sur France Musique le samedi de midi à 14h dans Retour de plage. Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Journaliste indépendant de premier ordre. Vous travaillez notamment, il faut vous flatter, je le sais un petit peu, toujours en début d'émission, vous travaillez notamment pour les magazines Lire, Vieux et Bon, et vous publiez chez Darkside avec Le Fossoyeur des films, Écran Noir, les histoires vraies derrière les films d'horreur. Alors, Thierry Jousse, est-il utile de présenter Alfred Hitchcock, né au Royaume-Uni en 1899 et mort à Los Angeles en 1980, 57 longs métrages en 60 ans de carrière, sans compter ses œuvres télévisuelles. Présentez-le en quelques mots à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler.
Là, vous démarrez très fort hein, pour le début d'émission. Vous voulez dire à quelqu'un, lui donner envie de voir les films d'Hitchcock ou présenter le personnage?
Oui, en quelques mots.
Non, mais c'est. Je pense qu'il y a une chose dont on parle pas assez, à mon avis, à propos d'Hitchcock, c'est que c'est d'abord un grand conteur. C'est-à-dire, on parle beaucoup. Alors, évidemment, ça va avec le suspense. Ce qu'il faut dire aux gens qui connaîtraient pas Hitchcock, mais puisqu'il peut toujours y en avoir, c'est qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir, justement, que c'est une sorte de magicien, au fond, c'est comme un conteur, mais c'est aussi quelqu'un qui a un sens, on va dire, plastique. Visuel absolument aigu et qui considère le cinéma comme un instrument entier, à part entière, c'est-à-dire musique, le son, les acteurs, les couleurs, tout est absolument important pour lui et évidemment la narration. Et c'est pour ça que pour beaucoup de monde et pour beaucoup de cinéastes notamment, je pense à Almodovar par exemple qui a dit ça à plusieurs reprises, le cinéma c'est Hitchcock et réciproquement on pourrait dire. Donc ça c'est unique.
Éric Libiot.
Oui, c'est Thierry a exactement dit le bon mot. C'est un conteur. Et moi, ce que j'aime dans Hitchcock, c'est qu'il raconte et il commande ce qu'il raconte par sa mise en scène. C'est-à-dire que il ne s'empêche pas de faire, et on le sait, hein, les grands moments de mise en scène, l'avion dans la mort aux trousses, la clé dans les enchaînés, de faire en sorte que le spectateur se rende compte de ces grands moments de mise en scène qui sont visibles, qui sont voyants. Et j'aime beaucoup cette idée de, à la fois de raconter des histoires romanesques, et puis de montrer qu'on peut faire du cinéma et que la grande mise en scène raconte aussi le cinéma.
Guimette Audicino.
Moi, ce qui me fascine, c'est que comment raconter avec autant d'élégance, de classe, et de beauté un peu partout, hein, y compris physique, hein, Cary Grant, Grace Kelly. En fait, le pire de l'humanité, c'est-à-dire vraiment tous les vices. Je pense qu'il les a à peu près tous cochés, mais comme ça, dans des narrations absolument parfaites, complexes, extrêmes, qui rend en fait assez parano, mais parano dans tous les sens du terme, hein, quand vous prenez un avion, mais aussi quand vous regardez votre mari. Je veux dire, pendant très longtemps, vous, après avoir vu Soupçon, on peut pas vous apporter un verre de lait sans que vous ayez un petit doute. Donc vraiment, c'est ça aussi, c'est cette manière. Enfin, de toute façon, c'était un grand. C'est un grand fou, un grand mazo, un grand tout. Enfin, c'était magnifique. Ça, c'est magnifique.
Thierry Jousse.
Non, mais c'est vrai qu'il a fait ses films avec ses angoisses. C'est ça qui est fort aussi. Et il les a transformés en spectacle, il les a transformés en objet de plaisir pour le monde entier, finalement. Et ça, c'est quand même un truc unique, parce qu'il aurait pu écrire des bouquins dans son coin. Certes, ça aurait sans doute marché, mais ça n'aurait pas eu le même impact. Mais là, il a projeté son monde intérieur, finalement, pour nous, d'une manière absolument unique. Donc ça, c'est vraiment extrêmement précieux, je trouve.
Éric Thibault.
Oui, c'est d'ailleurs ce que la critique américaine n'a jamais compris. Elle le prenait pour un faiseur. C'est les cahiers du cinéma. Et Thierry est bien placé pour le savoir qui en France.
J'étais pas encore.
Non, t'étais pas encore. Mais t'es obligé d'assumer. T'es obligé d'assumer. Peut-on être Hitchcock-oxien, c'est-à-dire peut-on, avec deux grands cinéastes qui sont a priori des raconteurs d'histoire, considérer qu'ils racontent aussi le monde et qui sont des grands moralistes, et ce qu'est Hitchcock, qui effectivement raconte le monde, les angoisses, il a même le suspense, c'est même une dérivation d'une façon métaphysique de prendre la vie, c'est-à-dire avoir peur qu'il se passe quelque chose. C'est ce que dit Jean Douchet dans son bouquin.
On va évoquer dans quelques instants quelques thèmes majeurs qui irriguent le cinéma d'Hitchcock. Tout d'abord, l'une des sources principales du plaisir qu'il nous procure, c'est son art du suspense. Vous l'avez dit, Éric, le suspense, c'est ce moment, ce passage d'un film ou d'un récit qui fait naître un sentiment d'attente angoissée. Alors, de façon canonique, on parle d'Hitchcock comme étant le maître du suspense. C'est un cliché quand on parle d'Hitchcock à ce sujet, mais c'est un cliché qui n'est pas faux, Thierry Jousse.
Ah bah non, après peut-être que le suspense n'est pas une fin en soi, on va dire. C'est un instrument, je dirais, pour justement raconter des choses, et c'est un instrument pour tenir le spectateur ou les spectatrices en haleine, c'est-à-dire que le suspense vous permet d'avoir envie de savoir ce qui va se passer, et surtout la grande idée d'Hitchcock, il l'a souvent évoqué, c'était la différence entre le suspense et la surprise, c'est-à-dire que la surprise, on peut donner l'exemple qu'il donnait en gros, c'est-à-dire nous sommes face à face, il y a une bombe en dessous le bureau, enfin c'est de la fiction, je précise, et si vous savez qu'il y a une bombe, si le spectateur sait qu'il y a une bombe, il va avoir une sorte d'empathie, de projection sur lui, alors que par contre si vous ne savez pas qu'il y a une bombe, ça va être la surprise, mais vous n'aurez pas cet effet qui justement dure un peu, et ça Hitchcock là-dessus évidemment il est imparable là aussi.
Et comme l'explique très bien Jean-Baptiste Morin dans Les Inrocs, et je le cite, la surprise a un effet puissant mais fugace, le suspense a un effet long et excitant qui maintient l'attention du spectateur, le suspend l'action et fait peur sur la longue durée et qui le soulage à la fin si la bombe n'explose pas. Éric Thibault.
Oui, c'est ça, c'est le suspense, c'est le rapport qu'on a au temps, donc à sa propre mort également, à la façon dont on voit la vie, à la façon dont on la regarde. On sait que Hitchcock, lui, ce qui l'intéressait, c'est de raconter par l'image ce qui se passait, beaucoup plus que par le dialogue. Donc c'est un rapport du regard, de la pulsion scopique, fenêtre sur cour en étant l'emblème principal, et on sait que le suspense marche par ce regard qu'on porte sur les choses, ou sur les gens, ou sur les événements, ou sur les péripéties.
Et sur la question du suspense, certains parlent même carrément d'aphrodisiaque puissant pour le spectateur, et que la résolution du suspense pourrait même s'apparenter à un orgasme. Vous êtes d'accord avec ça, Guillemette ?
En tous les cas, je suis d'accord avec le fait que ça correspond complètement à ce cher Alfred. C'est-à-dire que d'abord, le suspense est sadique. Bon, donc Alfred était quand même un peu sadique, même y compris sur ses tournages. Et puis effectivement cette notion d'orgasme. Et puis Sir Alfred avait aussi des fantasmes sexuels, des frustrations, enfin plein de choses. Donc en fait le suspense pour lui c'était aussi une manière, effectivement, c'est ce truc, c'est d'attendre. Dans sa tête ça devait être attendre. Est-ce que Grace Kelly va mourir sous le coup de ma caméra ou pas? Il y a quelque chose de ça aussi, c'est-à-dire son sadisme devient une espèce de jouissance pour le spectateur.
c'est d'autant plus jouissant parce qu'en général, ça se termine bien. Le suspense, c'est effectivement le héros qui est pris dans une péripétie particulière. C'est jamais le méchant, c'est toujours le héros. Et bon, la plupart du temps, quasiment tout le temps, ça se termine bien. Donc effectivement, comme dit, enfin, pas toujours, mais quand même, et comme dit Guilmette, il y a du sadisme et la jouissance vient par le happy end, si je puis résumer comme ça.
Oui, par exemple, dans L'amour aux trousses, c'est littéral. Hein. C'est-à-dire que le couple se réunit et évidemment, il y a une dimension sexuelle quand même, même si c'est évidemment jamais dit de manière explicite, les conventions et une forme d'autocensure oblige, mais il y a quand même des films de Hitchcock qui se terminent mal, notamment Vertigo, sans déflorer quoi que ce soit, au cas où il y a des auditrices ou des auditeurs qui n'aient pas vu. Donc, et même Psychose, on peut dire que
il y a quand même des gens sacrifiés.
Non, mais sur 50 et quelques...
C'est surtout vers la fin, parce que les oiseaux aussi, d'ailleurs, hein, c'est une fin suspendue, comme ça, donc finalement, je me demande s'il n'est pas devenu un peu plus pessimiste aussi avec l'âge.
Le suspense hitchcockien magnifié par la bande-son, par la musique, Thierry Jousse, exemple avec Psychose, peut-être la plus célèbre des bandes-son. Thierry Jousse, Hitchcock, qui disait à propos de la musique de Bernard Herrmann qu'un tiers de l'effet produit par Psychose était dû à la musique.
Oui, quand il dit un tiers, même, moi j'aurais tendance à dire presque la moitié. Mais d'ailleurs, vous savez que Hitchcock a fini par être un peu jaloux. Hitchcock a fini par être un peu jaloux de Bernard Herrmann et effectivement, on dit que c'est une des raisons pour lesquelles il s'est séparé de lui à l'époque du Rideau déchiré, mais en tout cas oui, on l'entend d'ailleurs, parce que cette scène dont on a entendu la musique, c'est une scène d'assassinat, on va pas non plus se cacher des choses, vu que c'est très connu, mais au départ, Hitchcock ne voulait pas de musique et c'est Bernard Herrmann qui l'a convaincu que ça serait beaucoup plus intense avec ses violons qui imitent en fait les cris d'une femme qui est en train de se faire assassiner, et effectivement, maintenant, plus personne ne peut imaginer cette scène sans la bande-son de Bernard Herrmann. Donc, il est devenu, à une époque, effectivement, une sorte de double musical d'Hitchcock, dont il a eu besoin, sans doute, à ce moment-là, et dont il a eu... et quand il s'est séparé de Bernard Herrmann, les films ont été moins bons et ont moins bien marché aussi, quoi.
Éric Thibault.
Oui, Bernard Herrmann, évidemment, grand compositeur, hein, qu'on a retrouvé après Scorsese, notamment dans Taxi Driver. Pour revenir à la scène de la douche, où effectivement la musique fait beaucoup, beaucoup de spectateurs ont dit n'osez plus prendre des douches après ce film-là. Et Hitchcock, en bon anglais, avec l'humour qui le caractérise, leur répondait essayez le nettoyage à sec.
Alors nous sommes génétiquement programmés pour ressentir la peur grâce à une zone cérébrale, l'amygdale. Depuis la nuit des temps, nous avons peur du noir, de la nuit, de l'inconnu, des bêtes inquiétantes. Les thrillers ou les films d'horreur permettent de jouer avec nos peurs ancestrales. Et Hitchcock sait admirablement jouer avec nos angoisses. Quelles sont ces recettes pour nous faire peur, Éric Thibault ?
Déjà, ça part de sa propre histoire. Son père l'a envoyé, quand il était gamin, quelques jours en prison, pour ressentir, d'abord pour qu'il arrête de voler, pour ressentir ce que c'est que l'injustice ou la justice, en tout cas le mal et le bien. Donc, ça vient chez lui, ça vient de très très loin. Et ce traumatisme, à mon avis, il le met en scène pendant toute sa carrière. La peur, c'est une façon de faire vivre au cinéma les émotions, c'est une façon de retenir le spectateur, c'est une façon de lui montrer que la vie n'est pas forcément si facile. C'est une façon de raconter le monde lui, une de ses grandes thématiques, c'est quand même le faux coupable, c'est-à-dire à un moment donné de se sentir coupable, mais on ne sait pas de quoi, parce que des fois il y a des faux coupables, titre d'un film de Hitchcock d'ailleurs, et que son angoisse vient de là, c'est-à-dire de quoi est-on coupable dans la vie, en fait. C'est la grande question que pose Hitchcock tout le temps.
Thierry Jousse, c'est intéressant parce que la peur ou la terreur ou tout ce que vous voulez, ça a été... Enfin, Hitchcock est considéré aujourd'hui, avec Psychose et même Les Oiseaux, comme une sorte de précurseur, d'inventeur, d'une certaine manière, du cinéma d'horreur moderne, même si, évidemment, aujourd'hui, on en a vu beaucoup d'autres. Hein. Et si vous regardez Psychose quand même, il y a les prémices d'une sorte de violence. C'était très audacieux à l'époque. Et Les Oiseaux, ça invente d'une certaine manière, on peut dire le film catastrophe ou quelque chose de cet ordre-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la peur, les oiseaux, ça devient une peur vraiment métaphysique. Ouais. C'est-à-dire c'est l'angoisse vraiment de la catastrophe, sujet qui nous concerne malheureusement quand même assez largement aujourd'hui.
Pas moi, Guillemette.
Sur la peur, quand on voit... En fait, il y a beaucoup de choses dans les films d'Hitchcock où la violence se jette sur nous. Enfin, se jette sur, la plupart du temps d'ailleurs, une héroïne, hein, parce que c'est toujours ces dames qui s'en prennent plein la gueule. C'est, ou alors, si, de temps en temps, ces dames prennent une paire de ciseaux et se jettent sur un homme qui les a au préalable agressés. Mais il y a quelque chose toujours de... En fait, c'est d'être... En fait, d'être transpercé. Les oiseaux, ça vous transperce les yeux, le poignard, les ciseaux. Il y a toujours un truc de ça. Il y a un truc d'être vraiment transpercé dans sa propre chair.
C'est une métaphore sexuelle, hein, comme dans La fin de l'amour retrouve.
Tout à fait. Dans, comme dans la, voilà, beaucoup de métaphores sexuelles chez Hitchcock. Et puis, il y a ce truc du vol. C'est pas étonnant que son père l'ait foutu en tôle parce qu'il était un peu voleur. Parce qu'en fait, il y a énormément de vols, de kleptomanie. On est toujours puni d'avoir voulu chipper la propriété d'autrui chez Hitchcock. Hein.
Thibaut de Saint-Maurice.
Alors moi, je ne connais pas très bien le cinéma d'Hitchcock, mais à vous entendre, j'ai l'impression qu'il a, de ce point de vue-là, une portée esthétique, on a dit émotionnelle, la peur, etc., mais donc une portée morale. Est-ce qu'il y a une portée morale ?
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les Américains ne l'ont jamais reconnu, c'est les Français, ça, c'est pour l'anecdote, mais c'est effectivement, il avait une vision du monde. De toute manière, quand on parle de la mort, quand on parle de la culpabilité, de l'injustice, de la peur, de l'angoisse métaphysique, on a forcément une morale par rapport à la façon dont on regarde le monde.
Mais je pense qu'il avait une vision du monde assez noire, au fond. Je ne sais pas si on pourrait dire qu'il pensait que le monde était une sorte de cloaque, mais il y a quand même un peu de ça chez lui, sauf que là encore, il a transformé cette espèce de sentiment finalement très négatif, en quelque chose qui, pour nous, finalement, est devenu totalement positif. Ça, c'est aussi le miracle d'Hitchcock et du cinéma.
Je ne sais pas s'il était très moral. En fait, ce qu'il propose, c'est un exutoire. C'est-à-dire,
une catharsis.
Oui, vraiment, c'est vraiment une catharsis par rapport à nos peurs et à nos démons. Après qu'il nous fasse la morale, je ne suis pas sûre.
Dans quelques instants, nous reviendrons sur la question de la mort dans le cinéma d'Hitchcock. En attendant, il est déjà l'heure de retrouver la cinéthérapie de Guillemette Odissino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Ha ha. Alors, cher Ali, une pub a fait polémique récemment. Le site de rencontre Gliden, c'est moche d'ailleurs comme nom.
Oui, c'est moche.
C'est moche. Avait placardé partout cette formule. Contrairement à l'antidépresseur, l'amant ne coûte rien à la sécu. Ouais. Alors, le machin a énervé tout le monde, hein, et à juste titre. Alors, on pouvait ne pas aimer que l'adultère soit envisagé comme une solution bien-être. On pouvait être plus féministe en pensant, d'accord, donc si les femmes sont déprimées, c'est forcément qu'elles sont mal baisées. En plus, tiens, il est question d'amants. Alors, il n'y aurait que les femmes qui sont déprimées et volages. Alors que les mecs, ils sont sages comme des images, et ils n'achètent que de la vitamine C, qui, évidemment, n'est pas remboursée. Sans parler... du fait plus grave que cette pub traite la dépression et la santé mentale par-dessus la jambe. Moi, en plus de tout ça, je me suis dit d'où c'est forcément relaxant d'avoir deux mecs. Déjà un seul, tu vois la charge mentale. Alors de plus, quand on a un amant, je pense, hein, qu'on court partout, on attrape des bus, des trains, on peut louper des marches, glisser sur le quai, ou se bousiller les cervicales en tentant une brouette moldave très coquine. Donc résultat, on sort sa carte vitale. Bon alors, je préfère vous faire une ordonnance de deux films qui ne plaisantent pas avec l'amour extra-conjugal. Dans Le temps de l'aventure de Jérôme Bonnel, Alix, une actrice de 40 ans, croise le regard d'un homme dans un train. Elle apprend par hasard où il se rend, alors sur un coup de tête, elle s'y rend aussi. Comme de toute manière, elle n'arrive pas à joindre son compagnon, que son téléphone n'a plus de batterie et que sa carte bleue est morte, alors autant aller au bout de l'aventure et passer toute la journée avec ce bel inconnu à l'hôtel. Et, c'est tout. Mais c'est beau, c'est délicat, et en plus c'est burlesque par moments, puisqu'elle se prend un poteau en pleine poire. Une scène, mais géniale. Et puis cette femme est incarnée par la formidable Emmanuelle DeVos, et l'amant d'un jour, par Gabriel Byrne. Oh mon Dieu. Pour 3 secondes avec lui, je veux bien arracher toutes les pubs Gliden avec les dents.
Alors certains amants, Guillemette, changent vraiment la vie d'une femme.
Absolument. J'adore vous avoir fait dire cette phrase.
Oui, exactement.
Ali. Je me régalais d'avance. Alors oui, oui, comme dans La leçon de piano de Jane Campion, ce chef-d'œuvre de romantisme noir et ébouriffant. Bon, à cause, je vous le redis, si par hasard vous l'avez pas vu, vous vous jetez dessus. À cause d'un mariage forcé, Ada Mutik est expédiée avec sa fille dans le bush néo-zélandais pour partager la vie d'un colon très sympa, vous allez voir, qui refuse de remonter de la plage où elles ont accosté. Le bien le plus précieux d'Ada, qui lui sert en plus de voix, son piano. et c'est un voisin qui le récupère.
Elle dit que c'est son piano, elle ne veut pas qu'il y touche. C'est un russe, il sait pas lire et il est ignorant.
Nous sommes une famille maintenant, nous faisons tous des sacrifices et vous en ferez. Vous lui enseignerez le piano et j'y veillerai.
Je voudrais qu'on fasse un marché. Il y a des choses que j'aimerais faire pendant que vous jouez. Relevez votre jupe.
Boubou, je pourrais vous parler des fesses nues d'Harvey Keitel. Je pourrais vous en parler. Hein.
Oui.
Bah non, mais vraiment, je pourrais
après
vraiment.
Après l'émission,
oui.
Si vous.
Non, mais ouais. Mais je pourrais aussi vous dire que ce film montre que la sensualité peut sauver la vie d'une femme. Mais je vais juste vous rappeler que la leçon de piano fut, en 1993, la première Palme d'Or de l'histoire du Festival de Cannes, donnée à une réalisatrice. Donc, en fait, reconnaître le travail et le talent des femmes, eh ben ça, je me demande si ça ne pourrait pas engendrer de sacrées économies à la Sécu.
Je rappelle l'ordonnance de cinéthérapie de la docteure Audicino, le temps de l'aventure de Jérôme Bonnel et la leçon de piano de Jane Campion avec les fesses d'Harvey Keitel.
Tout à fait.
On continue d'explorer quelques thématiques majeures du cinéma d'Hitchcock. Nos invités évoqueront leurs films fétiches et vous dites-nous sur l'appli Radio France pourquoi vous aimez certains films d'Hitchcock. On se retrouve juste après avoir écouté Doris Day, Que sera, sera, une chanson que l'on entend dans L'homme qui en savait trop en 1956, 10h29 sur Inter.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. What will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. What will be, now I have children of my own, they ask their mother, what will I be, will I be handsome, will I be rich, I tell them tenderly, que sera, sera.
Doris Day, Que sera, sera, extrait de L'homme qui en savait trop.
Ali Rebelli.
In America, you call this man Hitch.
Grand bien vous fasse.
In France, we call him Monsieur Hitchcock.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, nous célébrons le plaisir de regarder les films d'Hitchcock, La mort aux trousses, Les oiseaux, Les 39 marches, Rebecca ou encore La corde. Dans la corde, deux étudiants convaincus de leur supériorité assassinent l'un de leurs camarades jugé trop faible et pour rendre excitant leur crime, le duo enferme le mort dans une malle exposée lors d'un dîner auquel participe leur mentor, professeur de philosophie comme vous, Thibaut de Saint-Maurice, interprété par John Stewart. Vous aimez beaucoup ce film, vous aimez beaucoup la corde.
Oui, pour ma ressemblance d'ailleurs, d'abord avec James Stewart. En fait, c'est un des rares que j'ai vu d'Hitchcock. Ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est on y retrouve quelque chose auquel on peut être habitué quand on est allé un peu au théâtre, par exemple, ou qu'un dispositif théâtral assez simple, qui est que tout se passe au même endroit, avec globalement les mêmes personnages, dans l'unité de temps du film. Ça dure à peu près, je sais pas, une heure et demie, et c'est le temps d'une soirée, d'une discussion. Alors oui, il y a le côté un peu discussion philosophique, parce que derrière ça, il y a aussi une question de responsabilité morale, etc. Mais là, ce qu'on disait tout à l'heure sur le suspense, c'est évident. Il y a cette malle au premier plan. On a vu qu'il y a quelqu'un, il y a un macabé dedans. Et pendant 1h30, on se demande si ça va s'ouvrir ou pas. Donc c'est vraiment, je trouve, très simple d'accès. Voilà, et on est immédiatement immergé dans cette tension.
La surprise aurait été que le macabé sorte de la malle. Et fasse flipper tout le monde. Éric Libio.
Alors, je crois qu'il n'aimait pas beaucoup ce film-là. Il trouvait que cette pièce de théâtre, vous l'aimez beaucoup plus que lui, Thibault. Bah. Il trouvait cette pièce de théâtre très bavarde, et on sait que Hitchcock, lui, le dialogue, c'était pas son truc. Alors, du coup, il s'est demandé comment il allait faire pour lui donner un petit peu d'envie de tourner le film. Et en fait, c'est que des plans séquences. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun montage. Alors, à l'époque, on pouvait pas tourner en un seul plan séquence. C'était pas du numérique, c'est de la pellicule. Donc, au bout de 20 minutes, il change de bobine, de chargeur, mais voilà comment est-ce qu'il a transformé une pièce assez banale en un exercice de style assez étourdissant.
La mort, le danger mortel sont évidemment omniprésents dans le cinéma d'Hitchcock, Thierry Jousse.
Oui, j'allais revenir sur la corde, ça manque un tout petit peu de femmes quand même, de personnages féminins, parce que c'est un huis clos entre mecs, c'est normal, parce que, enfin, je plaisante à moitié, mais c'est vrai que moi je préfère le Hitchcock plus charnel, on va dire, plus incarné, alors que c'est un film très très, au fond, assez théorique, qui effectivement explique un peu presque ce qu'est le suspense et ce qu'est le cinéma d'Hitchcock.
Mais du coup, j'ai oublié. La question de la mort omniprésente, sur le danger de la mort omniprésent dans le cinéma d'Hitchcock.
La mort aux trousses, donc oui. c'est pas le titre original du tout d'ailleurs. Bah, la mort, c'est l'horizon, c'est notre horizon à tous, malheureusement, et c'est quelque chose qui effectivement est traité comme tel par Hitchcock, puisqu'au fond, c'est l'angoisse de la mort. Bon, on le voit par exemple dans un film qui est un de mes préférés, vraiment un de mes tout préférés, c'est Les Enchaînés.
On va y arriver.
Oui, alors du coup, on y reviendra.
Éric Thibault.
Non, alors, je mets un petit bémol. Moi, je ne suis pas sûr que la mort en tant que telle soit un des grands thèmes de Hitchcock, même s'il fait du film policier. Mm-hmm. Et paradoxalement, il a réalisé sans doute le film le plus fascinant sur la mort, qui est Sueur froide. Sueur froide, qui est d'ailleurs adapté d'un bouquin français, de Wallinard Sejac, que devait tourner Clouzot au départ.
Sueur froide, c'est Vertigo.
C'est Vertigo, là. C'est Clouzot qui devait le réaliser, mais les droits étaient pris par Hitchcock, donc il s'est dit, on va le laisser à Pépère. Il a tourné Diabolique à la place. Et c'est vrai que ce film-là, c'est le film par excellence sur la mort, alors que la mort n'est pas un thème forcément.
Le sexe peut-être le...
Ah bah, il y a le beaucoup... sexe, oui, il s'intéresse plus au sexe qu'à la mort.
Le sexe,
sûr,
la question du sexe et des pulsions sexuelles irrigue son cinéma. Et pour le réalisateur Olivier Assayas, Hitchcock, c'est le cinéaste qui parle le mieux du désir.
Oui, c'est ça, mais le Sueur froide, c'est ça, c'est-à-dire comment recréer un amour perdu, un amour mort, avec une autre femme qui le transforme en l'amoureuse précédente. Alors, il n'y a que James Stewart qui ne se rendait pas compte que c'était la même actrice qui jouait, les spectateurs s'en rendaient compte, et là, il y a aussi un jeu pervers d'identification sur les personnages. Vertigo, c'est peut-être le film le plus métaphysique, le plus étrange, le plus fascinant qu'il ait réalisé.
C'est aussi le film le plus morbide, au fond.
Et le plus morbide, bien évidemment.
Guimette.
Oui, c'est pas vraiment la mort, mais c'est l'omniprésence du danger. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment... bon, évidemment, on peut vous prendre pour quelqu'un d'autre, on peut vous accuser d'un truc que vous n'avez pas fait. La femme avec qui vous vivez, en fait, elle est peut-être... elle est toujours la plupart du temps toxique. Mmh. Elle vous ment, etc. Après, elle est punie par un autre danger. Mmh. C'est-à-dire, en fait, ce sont des dangers qui se succèdent. Et on ne sait jamais quel danger va finir par recouvrir tous les autres. Mmh. Et qui va être puni. Mais ce sont plein de vices, comme ça. Plein de vices soumis au danger d'autrui. Alors c'est vraiment... donc en fait, en plus, on est presque plus capable de savoir qui est le pire des méchants là-dedans. Bon, à part évidemment dans Psychose, là on n'a pas vraiment de doute, mais...
Allez, venons-en à quelques-uns de vos films fétiches. Alors Thierry Jousse et Éric Libio, vous avez tous les deux choisi donc Les Enchaînés, sortis en 1946 avec Cary Grant et Ingrid Bergman. Et pour Truffaut, c'était la quintessence de Hitchcock. Vous êtes d'accord évidemment Thierry Jousse ?
Bah oui, en plus je l'ai revu il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques semaines en salle. Donc effectivement j'ai pu constater à quel point ce film était une apogée déjà du style d'Hitchcock. Parce qu'on est en 46, ça fait quelques années qu'il est... Parce qu'il est quand même anglais Hitchcock, il est arrivé aux États-Unis en 40. Donc ça fait quelques années qu'il est, il travaille avec le producteur David O. Selznick. C'est assez compliqué leur rapport parce qu'il y a des égos quand même très très forts des deux côtés. Et avec les enchaînés, bah, il atteint voilà, une forme de plénitude où il y a quand même beaucoup de lyrisme. Et puis il fait de Cary Grant quelqu'un de complètement différent que l'image qu'on en a. C'est-à-dire, et ça il l'a fait d'ailleurs plusieurs fois, puisque déjà dans Soupçon, mais là c'est un Cary Grant quand même très raide, très froid.
Qu'est-ce que ça raconte?
On dirait presque un acteur de Bresson. Ouais.
Qu'est-ce que ça raconte, les enchaînés?
Ça raconte une histoire d'amour entravée, une histoire d'amour perverse entre Bergman et Ingrid, enfin un ménage à trois au fond entre un, en plus il y a quand même un nazi dans le trio hein, qui est joué magnifiquement d'ailleurs par un acteur qui s'appelait Claude Rains et qui est un personnage que Hitchcock a réussi à rendre attachant, ce qui est aussi sa grande force, c'est-à-dire que comme il disait, plus le méchant est réussi, plus le film est réussi, et en effet il faut que les méchants, on ait aussi un peu d'empathie pour eux, et donc cette espèce de trio amoureux où tout passe par des choses un peu codées, un peu cachées, où l'un regarde les deux autres, enfin bref, c'est fascinant, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise absolue du récit, mais il ne vous la fait jamais sentir de manière, c'est-à-dire que c'est ça aussi l'élégance d'Hitchcock, c'est que bah, au fond c'est la fluidité totale et vous êtes un spectateur absolument complet quoi.
Et à propos des scènes d'amour dans le cinéma, Truffaut disait qu'il filmait les scènes d'amour comme des scènes de meurtre et les scènes de meurtre comme des scènes d'amour.
Eric oui, Hilliot. C'est tout à fait ça. Alors je pourrais voler Guillemette pourrait le dire à ma place, on a le droit de tomber amoureux de Ingrid Bergman et de Cary Grant dans le film. Hein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec...
On est un peu obligé,
c'est ce qui m'est arrivé avec
Ingrid
Bergman.
Les couples les plus glamour.
Sincèrement, quand je l'ai vue à 20 ans, je vous jure que je suis tombé amoureux d'elle. Ça, c'est tout à fait juste. Oui, c'est peut-être un des films les plus parfaits d'Hitchcock, c'est-à-dire c'est d'un romantisme noir, c'est l'histoire d'un homme, Cary Grant, enfin d'un agent secret qui est obligé de demander à la femme qu'il aime d'infiltrer un groupe nazi et de se marier avec le chef des groupes nazis. Donc, il est dans une position où il peut pas avouer son amour et en même temps, il aime et il voit sa femme, enfin en tout cas celle qu'il aime, en danger. Donc, quand je le résume comme ça, on dirait que c'est une espèce de drame amoureux un peu bébête. Mais quand on voit le film, c'est là aussi un exercice de style brillantissime. Vous parliez des scènes d'amour. Il y a une scène de baiser entre Ingrid Bergman et Cary Grant où Hitchcock, en grand pervers qu'il est, si je puis dire, pour détourner le code Eyes, qu'on n'avait pas le droit de s'embrasser plus de 3 secondes, eh bien, il filme Bergman et Cary Grant en train de manger une cuisse de poulet et en train de s'embrasser, en train de parler quasiment bouche contre bouche. Mais effectivement, les baisers ne durent pas plus de 3 secondes, alors que c'est d'un érotisme terrible. Il n'y a pas une scène plus érotique que cette scène de baiser.
Après les enchaînés, la mort aux trousses.
Mais que signifie toute cette comédie? Pourquoi m'a-t-on amené ici?
Vraiment? Vous le savez bien.
Je n'ai pas d'objection contre un petit enlèvement de temps à autre, mais ce soir, malheureusement, je dois aller au théâtre. Oui, c'est une chose que j'avais décidée depuis longtemps, et ce genre de contretemps a le don de m'exaspérer, je le reconnais.
Vous jouez si bien la comédie qu'on prendrait ce salon pour un théâtre. Ah, Léonard, vous a-t-on présenté à notre invité? Mon secrétaire a une très grande admiration pour vos méthodes, Monsieur Kaplan. Elles sont efficaces, mais malgré tout, je trouve que...
Qu'est-ce que vous dites? Vous m'avez appelé Kaplan?
Oh, je sais que vous avez de nombreuses identités, mais je veux bien accepter la plus courante.
La plus courante? Je m'appelle Thornhill. Roger Thornhill. Je n'ai jamais porté d'autre nom.
Oui, bien sûr.
Il est évident que vos amis se sont trompés de marchandises lorsqu'ils m'ont obligé à les accompagner.
Asseyez-vous donc, Monsieur Kaplan.
J'ignore qui s'appelle Kaplan, mais ça n'est pas moi.
L'amour aux trousses avec Eva Marie Saint et Cary Grant, sorti en 1959. Thierry Jousse, pourquoi ce film provoque chez vous des ondes de plaisir intellectuel et physique?
Moi, je crois que je suis pas le seul. Hein,
quand même. Moi, je l'ai vu 10 fois.
Oui, mais voilà, vous résumez bien l'affaire. C'est le film, vous tombez dessus, vous dites, bon, je vais regarder 3 minutes, et puis en fait, vous allez jusqu'au bout, parce que vous pouvez pas faire autrement. C'est tellement irrésistible. Alors là, c'est tout. Hein, c'est
la perfection totale.
C'est-à-dire que c'est à la fois la conduite du récit, ce couple ultra glamour, là encore, hein, c'est toujours Cary Grant, mais un Cary Grant plus sympathique que celui de les enchaîner, quand même plus séduisant, alors qu'il est pas tout jeune hein, à l'époque. Hein, c'est quand même c'est pas un vieillard du tout, mais enfin, c'est déjà quelqu'un d'un peu vieillissant. Mais il arrive quand même encore à donner l'illusion voilà, que c'est un pur séducteur. Eva Marie Saint, qui est moins connue que les héroïnes hitchcockiennes blondes, moins que Kim Novak par exemple ou Janet Leigh dans Psychose, elle est quand même absolument formidable. Vous voyez la séquence de rencontre entre Cary Grant et Eva Marie Saint dans le train, c'est un sommet. Je veux dire, c'est à la fois d'un érotisme trouble et c'est écrit, les dialogues sont absolument impeccables. Et puis, c'est un film qui visuellement visuellement est absolument...
La poursuite sur le Mont Rushmore.
Par exemple, ça c'est toute la fin du film, ouais. Évidemment c'est sublime, les plans sur le Pentagone, enfin bref, c'est un feu d'artifice visuel.
Éric Libio.
La poursuite sur le Mont Rushmore, dont on espère que Trump ne va pas remplacer Lincoln, parce que sinon cette scène-là serait à jeter aux oubliettes. Non, ce qu'il y a de formidable dans La Mort aux Trousses, c'est aussi le principe du MacGuffin, c'est-à-dire qu'ils inventent...
Expliquez ce que c'est
le MacGuffin. C'est un prétexte, et c'est un prétexte parfois un peu absurde, c'est un prétexte dont le spectateur se demande toujours ce qu'il est, et alors que c'est absolument rien, mm-hmm. la plupart du temps. Et là, Kaplan, c'est effectivement un homme qui n'existe pas. Alors j'imagine que dans l'espionnage, c'est quelque chose d'assez courant, d'inventer une espèce d'ennemi un peu invisible. Mais là, on court après Kaplan, alors que c'est un homme qui n'existe pas, et on le prend pour Cary Grant, et c'est le début, dès la première scène. Ça qui est formidable avec Hitchcock, c'est que ça démarre à 200 à l'heure.
Guillemette.
Et puis moi, je voudrais juste dire, je voudrais rendre hommage à Michel Roux, le doubleur français de Cary Grant. Parce que franchement, c'était le bon temps. À l'époque, je trouve que les doublages étaient bien meilleurs. Et alors franchement, Michel Roux, particulièrement dans ce doublage, dans ce film-là, à un moment, il y a une scène d'ivresse où il est dans une cabine téléphonique. J'oserais dire que Michel Roux en français est plus drôle que Cary Grant en VO.
Vous croyez que les morts reviennent surveiller les vivants ?
Non, je ne le pense pas.
Quelquefois, pourtant, j'ai l'impression qu'elle hante les couloirs de Manderley et que son fantôme vous surveille tous les deux. Vous êtes fatigué ? Eh bien, reposez-vous là une minute. Écoutez l'océan. C'est si apaisant. Tenez, écoutez. Écoutez la mer.
Rebecca, sorti en 1940, un film adapté du célèbre roman de la Britannique Daphné du Maurier avec Jeanne Fontaine, Laurence Olivier, Judith Anderson et George Sanders. Et pour Cécile Murray dans Télérama, Rebecca, c'est Alice au pays des cauchemars. Et pour vous, Éric Libio ?
Oui, Cécile a tout à fait bien résumé. Alors, il est un peu particulier ce film-là, d'abord parce que c'est le premier film américain de Hitchcock. C'est Selznick qui l'a fait venir d'Angleterre où il avait déjà beaucoup de succès. Et il avait proposé à Hitchcock de tourner Titanic. Et comme Selznick sortait d'autant emporte le vent, il s'est dit, en deux gros films, ça va être compliqué, donc on va vous filer un petit roman et puis vous allez vous débrouiller avec ça. Donc Hitchcock, très poli, il a dit ok. Donc il tourne effectivement Rebecca qui a obtenu l'Oscar du meilleur film, mais aux États-Unis, l'Oscar du meilleur film revient au producteur. Mm-hmm. Donc Hitchcock n'a jamais eu de sa vie de cinéaste un seul Oscar.
Qu'est-ce que vous aimez dans Rebecca ?
Ce qui est formidable dans Rebecca, c'est que c'est pas un film hitchcockien. Enfin, a priori, sur le papier en tout cas, c'est une espèce de roman, de romantisme noir et gothique, où il n'y a pas vraiment de suspense, où c'est assez bavard, où c'est très psychologisant, et comme il le dit à Truffaut dans le Hitchcock-Truffaut, qui est le plus grand livre de cinéma du monde, Truffaut dit, mais vous avez réussi à transformer un film assez banal, bavard, où c'est uniquement des rapports entre des personnages, puisque c'est l'histoire d'une femme, Madame de Winter, qui arrive à Manderley, deuxième épouse de Max de Winter, qui a perdu sa première épouse et on ne sait pas trop comment Rebecca, cette première épouse, est morte, et qui se trouve donc Madame de Winter confrontée à Madame d'Anvers, jouée par Judith Anderson. Donc c'est un film de fantômes, c'est un film de confrontation, c'est un film où il n'y a pas vraiment de suspense, mais il y en a toujours. Il y a une angoisse absolument terrible qui se distille dès le début du film, ou quasiment, en tout cas dès que John Fontaine débarque à Manderley. Et c'est un film qui devient Hitchcockien.
Oula. Ah, mais c'est ce lapsus formidable. J'aurais voulu le faire, que j'aurais pas réussi.
Et voilà comment est-ce qu'un film qui n'est pas Hitchcockien devient Hitchcockien, parce qu'on a dit avec le talent du metteur en scène.
Thierry Jousse.
Non, j'ajouterais juste à ce qu'elle a dit, Eric, qui est totalement juste, précisément. La maison, enfin la demeure, c'est Manderley, justement, est un personnage à part entière dans le film. Ça, c'est ça qui est très beau, c'est-à-dire qu'elle a une vie propre et elle est symbolisée par ce personnage assez terrible qui s'appelle Mrs. Danvers.
They're coming!
Alors ça, c'est un extrait des oiseaux sorti en 1963 avec Tippi Hedren qui a provoqué une phobie des oiseaux chez bien des spectateurs. Tippi Hedren qui a vécu un enfer lors du tournage du film, et on a quelques messages en ce sens. Il y a par exemple Marion qui nous dit « J'espère que vous allez parler de son extrême perversité envers ses actrices, surtout Tippi Hedren qui ne s'en est jamais remise. » Et puis pareil pour une autre auditrice, Chantal, qui nous dit « J'espère que vous avez écouté le Affaire Sensible du 28 mai 2025, Tippi Hedren dans Les Oiseaux, la proie d'Alfred Hitchcock. J'adorais ce cinéaste et après avoir entendu le comportement qu'il avait avec les femmes, j'ai jeté tous les ouvrages que j'avais sur lui.
J'ai dit qu'il était sadique sur les tournages.
Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Ça dépend quand même des actrices.
Oui,
aussi.
Ça dépend des actrices.
Tippi Hedren, en effet, on le sait, c'est documenté. Il a été absolument horrible avec Tippi Hedren, avec un sadisme, notamment dans la scène où il se fait attaquer par les oiseaux. Et en fait, c'est des vrais oiseaux à certains moments. Enfin bref, et là, il aurait pu très bien ne pas s'en remettre. Et ça n'a pas été non plus une partie de plaisir sur le film suivant qu'ils ont été obligés de faire, l'un et l'autre, Pas de printemps pour Marnie. En revanche, des actrices comme Grace Kelly, par exemple, ou Ingrid Bergman ne se sont jamais plaints de Hitchcock. Alors, est-ce qu'elles ne voulaient pas parler? Je n'en sais rien. Mais on sait que Grace Kelly a gardé des liens avec Hitchcock toute sa vie, y compris quand elle était à Monaco. Il y a une correspondance privée qui existe, qui n'a pas été publiée, mais qui existe, et qui témoigne d'un grand attachement de la part de Grace Kelly envers Hitchcock.
Pourquoi avez-vous choisi Les Oiseaux, Thierry Jousse?
Parce que c'est un film, parce que c'est un film que j'ai vu assez enfant et qui m'a marqué. Alors aujourd'hui, c'est peut-être pas un film qui fait très peur par rapport à ce qu'on a connu depuis. Non, mais bon, c'est des histoires de convention d'époque. Le film
notre réalisatrice Claire Destacan, Dodeline en régie.
Mais c'est un film assez étrange parce qu'il est, il est pas. Enfin, narrativement, c'est un film assez ténu. Alors, il y a une sorte d'histoire secondaire et tout. Mais c'est un film qui me fascine. Je pense que c'est la dimension visuelle qui me fascine dans ce film. Parce qu'il y a vraiment une ambiance dans cette petite ville de Bodega Bay où a lieu l'essentiel de l'action. Il y a quelque chose visuellement, je ne sais pas, d'électrisant pour moi dans ce film. Et c'est difficile à expliquer. Et effectivement, la traduction aussi de cette angoisse presque métaphysique qu'on peut tous avoir vis-à-vis de l'attente d'une catastrophe, de l'imminence d'une catastrophe.
Guillemette.
Justement, moi je suis d'accord pour qu'on regarde les deux films avec Tippi Hedren, parce que moi j'aime beaucoup en plus Pas de printemps pour Marnie.
En 1964 avec Sean Connery.
Avec Sean Connery, d'abord parce que Sean Connery, on a l'impression qu'il est, il est touriste dans le cinéma.
C'est pas vraiment un acteur Hitchcockien.
Mais oui, et c'est génial de le regarder, presque se demander ce qu'il est en train de foutre et en train de tourner.
C'est James Bond à l'époque en
plus. Mais Tippi Hedren est absolument génial. Alors là, pour le coup, c'est un film, c'est le début de sa tendance un peu psychédélique. C'est très, enfin j'allais dire très noir. Psychanalytique et un peu psyché déjà. C'est très rouge, c'est très sanglant, c'est très étrange. Et de voir les films avec Tippi Hedren, c'est bien. Parce que, en fait, moi, ce que je trouve le plus méprisable chez Hitchcock, c'est qu'en fait, s'il était sadique avec elle, c'est parce qu'en fait, il ne la trouvait pas au niveau de Grace Kelly. Alors moi, ça, ce genre de truc, ça m'agace, quoi. En fait, il s'est vengé sur elle de ne pas pouvoir continuer à tourner avec Grace Kelly. Ça, c'est pas beau.
On termine avec quelques messages. Stéphane de Toulouse qui nous écrit « Grand fan de Sir Alfred, je suis toujours étonné qu'on ne parle pas du rôle de la mère dans ses films, que ce soit dans Psychose, Les Enchaînés, Pas de printemps pour Marnie ou même dans Les Oiseaux. Il y a souvent une mère autoritaire, voire abusive dans l'histoire. Francesca c'est les Nancy qui nous écrit « Coincé chez moi suite à une chute à vélo qui a occasionné une immobilisation d'environ 6 semaines. Je pense très fort à Fenêtre sur cour où les tenues de Grace Kelly m'ont toujours tellement fait rêver. » Et puis Catherine qui nous dit que ce soir et demain à l'Auditorium de Lyon, il y aura un ciné-concert. Psychose, on n'a pas le temps pour un dernier film peut-être, Éric Libio, méconnu, juste pour le
oui,
citer.
Oui, le correspondant 17 qui vient juste après Rebecca parce que c'est une série B et il avait proposé le rôle à Gary Cooper, mais à l'époque les thrillers, parce que c'est un film d'aventure et tout ça, n'avait pas bonne presse et Gary Cooper a refusé. Le film a été un énorme succès et puis Gary Cooper a dit à Hitchcock quelques années après « J'ai eu tort, non ?»
Juste une dernière question, à partir de quel âge peut-on montrer les films d'Hitchcock à ses enfants? C'est une question de Sylvie à la Trinité-sur-Mer.
Ah ça dépend vraiment du film.
Oui, ça dépend aussi, c'est Psychose, peut-être pas trop tôt.
Oui, non, si c'est pas de printemps pour Marnie non plus.
La mort aux trousses,
si.
Oui.
La mort aux trousses, si. Non, la main au collet.
La main au collet.
Voilà, si vous voulez commencer du Hitchcock avec des enfants, faites La main au collet. C'est la Riviera, tout le monde est beau, il y a juste des petits cambriolages, c'est light, c'est magnifique.
La main au collet pour commencer quand on est enfant avec Hitchcock. Allez, dans un instant, c'est la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice. En attendant, on écoute Miel de Montagne et Girl Ultra qui interprète Ma Cerquita. Miel de montagne et Girl ultra interprété Ma Cerquita.
France Inter.
Nietzsche, allez.
Rends bien vous face.
L'homme qui a dit mort est pareil au chien qui mord une pierre.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme.
Ah bon ? Si.
Ben si.
Alors mon cher Thibaut de Saint-Maurice, ce matin dans votre punchline philo, vous nous amenez au bord de l'eau avec cette citation d'Héraclite très connue, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.
Oui Ali, alors cette phrase elle date d'environ 500 ans avant Jésus-Christ hein, et c'est sans doute la plus célèbre punchline sur le temps qui passe. Précisément Héraclite écrit « Nous entrons et n'entrons pas dans les mêmes fleuves, nous sommes et ne nous sommes et ne pardon, nous ne nous sommes et ne sommes pas en même temps, vous voyez, c'est compliqué à dire. Et c'est l'ami Platon qui va trouver donc une formule un peu plus facile à dire, deux siècles plus tard. Et c'est celle qu'on retient aujourd'hui. On ne se baigne donc jamais deux fois dans le même fleuve. Exactement. Alors, l'air de rien, Héraclite nous dit quelque chose de terrifiant. La stabilité n'existe pas. Le monde est un flux perpétuel. Imaginez, Ali, que vous mettiez aujourd'hui les pieds dans la Seine. Eh bien, si vous y retournez demain, l'eau qui vous a mouillé aujourd'hui sera loin. Physiquement, le fleuve a changé. Ce n'est plus la même eau. Mais l'idée d'Héraclite, elle va plus loin. Elle nous dit que ben, vous aussi, vous avez changé. Entre votre première et votre deuxième baignade, vos cellules se sont renouvelées, vos pensées ont évolué, votre humeur a changé. Pour Héraclite, tout coule, rien ne demeure immobile. L'univers est un immense feu qui transforme tout en permanence, comme une bûche qui se consume. Donc ni le baigneur ni le fleuve ne sont identiques à eux-mêmes d'un instant à l'autre.
On l'a compris, tout change, mais en quoi est-ce un problème ? Le mouvement, c'est la vie, non ?
Oui, alors certes, mais ce n'est pas si simple. Si on prend Héraclite au mot, c'est même un cauchemar philosophique qui pose deux soucis majeurs, un problème d'identité et un problème de vérité. Alors d'abord, l'identité. Si je change à chaque seconde, qui suis-je ? Imaginez la scène à la maison. Ma chérie, ce n'est pas moi qui ai oublié de faire les courses hier. La personne qui devait faire ses courses a disparu. Aujourd'hui, je suis un nouvel homme.
La mauvaise foi.
Voilà.
Ah, c'est bon, ça.
Vous voyez le problème ? Si l'identité n'est qu'une suite d'états sans lien solide, la responsabilité morale s'effondre. On ne pourrait donc plus rien promettre, car celui qui promet n'est pas celui qui devra tenir la promesse. Ensuite, il y a le problème de la vérité. Si tout bouge tout le temps, on ne peut rien connaître. Si la réalité change plus vite que nos mots, la vérité est périmée avant même d'être dite. C'est le triomphe dû à chacun sa vérité, à chaque époque ses valeurs, c'est le relativisme total. Alors, comment faire pour ne pas se laisser emporter par ce courant ? Eh bien, chose étonnante, on peut faire encore un peu de philosophie. Avec Aristote, d'abord, deux siècles plus tard, en distinguant le contenant et le contenu, la forme et la matière, la puissance et l'acte. Aristote explique que si l'eau, la matière, change effectivement tout le temps, la forme du fleuve, son lit, sa géographie, sa structure, elle demeure. Il y a donc quelque chose de stable qui supporte le changement. C'est ce que Aristote appelle la substance. Voilà, moi je change, je bronze, je vieillis, mais mon humanité, mon identité profonde reste stable. Avec Platon, ensuite, et une solution encore plus radicale. Certes, le monde naturel et sensible est entièrement soumis au changement, mais il y a un autre monde, le monde des idées, qui, lui, résiste au changement. Prenez par exemple un cercle tracé dans le sable, la mer va l'effacer, mais l'idée du cercle, sa définition mathématique, elle, ne change jamais. Avec Platon s'ouvre donc la possibilité d'articuler le changement du monde et la stabilité des vérités. Alors Ali, n'ayez plus peur de vous baigner. Héraclite nous apprend à accepter que la vie est mouvement et que le monde change sans cesse. Mais c'est justement pour ça que nos identités et nos vérités ne sont pas données, ne sont pas toutes faites, mais sont comme des enquêtes à mener. À nous de trouver ce qui, au milieu du courant, assure la continuité et mérite de rester vrai.
Et le jour où vous me verrez me baigner dans la Seine, mon cher Thibault, ce jour-là n'est pas encore venu. Les punchlines de la philo de Thibault de Saint-Maurice sont à podcaster sur l'appli Radio France. Et n'oubliez pas ce soir à 20h, l'heure philo avec Patricia Martin. Et c'est ainsi que s'achève Grand Main vous fasse. Merci aux amis du vendredi, Thibault et Guillemette. Merci Éric Libiot, Écran Noir, les histoires vraies derrière, les films d'horreur, c'est publié chez Darkside. Merci Thierry Jousse, on vous retrouve sur France Musique dans Retour de plage. C'est demain à midi.
Oui, un programme de reprise de chansons françaises avec plutôt des interprètes d'ailleurs d'aujourd'hui.
Merci Nathalie Romero pour la programmation de cette émission avec la collaboration de Noé Brabant. Merci Claire Destacan pour la réalisation. Merci à Valentine Chedebois pour la programmation musicale. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi dans le mag de la vie quotidienne à 10h30 dans la grande matinale. Comment supporter les traitements contre le cancer avec notamment Christophe André.